Mana Ono, salam. Je suis Simbak et vous écoutez actuellement le podcast Malabar. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter Maïe Rami Prod, qui a monté ce nouvel épisode. Entrepreneur basé en France, il est disponible pour vous accompagner dans tous vos projets vidéo et photo. Retrouvez ses contacts dans le lien de l'épisode. Malabar, c'est le premier podcast qui vous fait découvrir Madagascar autrement. À travers les expériences de mes invités, je vous emmène à la découverte de ce pays qui regorge non seulement de richesses, j'ai nommé la veine de Madagascar, mais aussi et surtout d'une génération fantastique qui veut aider le pays à se développer. Dans chaque épisode, vous découvrirez le parcours de mon invité, ses expériences et son regard porté sur le pays. Alors pour suivre toute l'actualité de Malabar, n'hésitez pas à vous rendre sur malabar.fr ou à suivre notre Instagram. Et maintenant, je laisse place à ma conversation avec mon invité du jour.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Asne, qui est la fondatrice de Madagascar Rice Company. C'est une entreprise qui travaille dans le riz, comme vous l'avez compris. Elle va nous en apprendre un peu plus sur ce qui fait aujourd'hui la base du plat malagas. Bonne écoute. Bonjour Asne, comment vas-tu?
Bonjour Simbak, je vais très bien, merci. Et toi?
Merci, ça va bien. Bienvenue sur Malabar, merci à toi d'être avec moi aujourd'hui. Donc on en a discuté un petit peu en amont, c'est moi qui suis venue te voir sur LinkedIn pour faire une interview avec toi, parce que je trouve que tu travailles dans un domaine qui est vraiment, qui tient à cœur à tous les malgaches, je tiens à le dire à tous les malgaches qui nous écoutent, parce que tu travailles dans la culture du riz. Donc avant de parler de Madagascar Rice Company, j'aimerais que tu te présentes un peu aux auditeurs, que tu nous dises qui tu es, où est-ce que tu vis aujourd'hui et qu'est-ce que tu fais dans la vie.
Oui, merci pour ton invitation, Simbak. Alors, je suis Asne. Je suis entrepreneur, je suis maman aussi et épouse. Et donc, je vis sur Tana et je dirige la société Madagascar Rice Company depuis maintenant un an. Mais en parallèle, je suis aussi, je suis aussi associée dans une autre entreprise qui est l'HP Conseil et Services, qui est une entreprise d'externalisation de services, donc sur Madagascar.
D'accord.
Voilà.
D'accord, super. Alors, pour avoir un petit peu une vue, on va dire, de ton parcours, est-ce que tu es née à Madagascar? Est-ce que tu as grandi à Madagascar? Est-ce que tu as fait toute ta vie à Madagascar? Juste pour que les auditeurs soient un peu au courant de ton parcours avec le pays.
Oui, Simbak, effectivement, je suis née à Madagascar, je suis née à Tana. J'ai fait mes études supérieures à Tana, mais mes années de primaire et collège, on a beaucoup bougé sur Madagascar parce que en ce temps-là, mon père était fonctionnaire, donc il était toujours en affectation, donc on a pas mal bougé donc sur les côtes de Madagascar. Mais mes études universitaires, je l'ai toujours fait à Antananarivo.
D'accord, très bien. Et tu es très heureuse à Madagascar?
Oui, jusqu'à maintenant, oui.
Très bien. Alors, donc tu disais d'abord que tu avais fondé une entreprise avec ton mari dans l'externalisation de services, mais qu'aujourd'hui, tu as, alors est-ce que c'est ta société ou peut-être aussi avec quelqu'un, Madagascar Rice Company, est-ce que tu peux nous parler un peu des débuts de cette entreprise sur le riz, de comment tu as décidé de te lancer dans ce secteur?
Oui, en fait, Madagascar Rice Company, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une entreprise qui est toute jeune. Et j'ai décidé de lancer la compagnie après une visite chez mon père parce que je suis originaire de la Loutche. La région Alouche, donc, c'est une région qui est le grenier à riz de Madagascar actuellement. Après avoir entendu mon père raconter l'histoire de ma grand-mère qui est une agricultrice donc de la région, j'étais inspirée par son histoire. Je voulais donc reprendre ses activités. D'autant plus que le produit était déjà là, le riz, on avait terre. Donc, j'ai décidé de lancer la compagnie. Et aussi, j'avais aussi cette conviction que ça peut aider ma région à se développer économiquement et socialement.
Donc, au détour d'une conversation avec ton père, tu as décidé un peu de changer ton destin. C'est un peu ça.
Oui, si on peut dire.
Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se fait, le riz, comment ça se cultive, quel type de climat il faut, tu vois, pour moi, très honnêtement, je m'y connais pas du tout. Je connais les rizières, mais j'ai aucune idée de comment ça se passe. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu quel est le processus et comment se passe surtout la culture du riz?
Donc, dans notre région, la culture se fait une ou deux fois par an. Donc, je ne sais pas trop comment te l'expliquer, mais il y a la saison où on pique le riz et après, 6 mois après, on récolte le riz. Donc, ça fait à peu près On cultive à peu près deux fois le riz, on récolte le riz deux fois par an, dans notre région.
D'accord. Et au niveau du type de riz, c'est quoi comme type de riz? Parce qu'il y a plusieurs riz, j'imagine. Il y a le riz grain long, enfin long grain, je ne sais même plus comment ça se dit, basmati, le riz noir, etc. Vous cultivez quel type de riz?
Donc, dans la région à l'autre, on ne cultive que les riz longs grains du genre Makalioukam, Tsiemaka. Il y a deux sortes de riz longs grains, riz blanc. Le Tsiemaka, c'est un peu plus long grain que le Makaliouk. On cultive aussi le Dist, qui est une riz rouge long grain. Voilà donc les deux grands types de riz que l'on cultive dans cette région-là. Par contre, dans la compagnie, nous aussi, on essaie d'exploiter les autres variétés de riz qui se trouvent à Madagascar, notamment le riz Madame Rose, qui est un riz parfumé très, 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 de très, très bonne qualité, le riz noir aussi. On essaie donc de de vendre et de faire connaître au public, aux consommateurs aux locaux, tous les produits de riz qui sont disponibles à Madagascar.
D'accord. Donc une fois que vous avez fait votre culture de riz, tu peux nous donner une idée un peu de la quantité que vous cultivez quand tu dis que vous en avez deux fois par an, c'est combien en kilos ou par personne, combien un agriculteur peut récolter?
Ah d'accord. Là, globalement, j'ai pas trop l'idée, mais en tonnes, ça se fait en tonnes donc par an. Donc, un hectare de riz peut faire à peu près 4 tonnes. On peut avoir 4 tonnes de riz de paddy donc à partir d'un hectare de rizière. Donc, on calcule ça à partir du nombre d'hectares qu'on a.
D'accord, très bien. Et après, vous travaillez dans une usine pour trier tout ça, j'imagine?
Oui, après la récolte, on sèche un peu le riz, on sèche au soleil, et après on va dans une usine de décortiquerie, donc pour enlever le paddy et pour avoir le riz blanc. Après, quand on a le riz blanc aussi, puisque nous au MRC, on essaie donc de vendre la meilleure qualité possible du riz, donc on essaie de trier. Donc là, on fait travailler des trieuses. Il y a des trieuses qui travaillent pour qu'il n'y ait pas de brisure donc dans les riz que l'on vend.
D'accord, très bien. Donc justement, tu parlais des différentes tâches tout à l'heure et tu parlais notamment là des trieuses. Ça veut dire que tu emploies aujourd'hui des malgaches. J'aimerais que tu nous parles un peu du fonctionnement, de leur point de vue sur la culture du riz et de surtout, est-ce que toi, tu te rends compte de l'impact direct que tu as avec Madagascar Rice Company dans la région d'Alloch?
Oui, on travaille avec plusieurs femmes dans la localité. Les femmes, la culture du riz, d'abord, dans la région Alloch, c'est vraiment pour eux, comment dire, c'est vraiment leur vie. leur vie. Donc, y en a ceux qui peuvent, qui ont des rizières, donc qui peuvent jouir de ça. Mais il y a ceux aussi qui travaillent pour les paysans, comme la plupart sont des femmes. Et il y a aussi des très, très, très jeunes, jeunes gens qui travaillent dans les champs de rizières. Et Madagascar Rice Company, justement, essaye de recruter des femmes pour leur aider économiquement, pour participer au grand taux, je veux dire, parce qu'il y a, il y a un très grand taux de chômage dans la région. Il y a beaucoup de personnes qui ne travaillent pas. Et malheureusement, le taux d'analphabétisation est très, très haut aussi. Donc, on essaye de créer de l'emploi et de participer aussi à la vie économique de ces personnes-là.
Et aujourd'hui, concrètement, pour avoir une idée de nombre, tu sais à combien s'élève la population ou pas à l'autre?
J'ai le nombre, mais il faut que je regarde un peu mes documents.
D'accord.
Oui. Après, ça va faire, je vais dire, il y a quelques millions peut-être.
D'accord. Et avec Madagascar Rice Company, est-ce que tu sais combien de familles tu fais vivre?
Oui, donc sur la région, on travaille avec une dizaine de personnes. Donc, à Parafaravoul, plus exactement, parce qu'on est situé en Parafaravoul, notre site d'exploitation se trouve en Parafaravoul. On travaille avec une dizaine de personnes, dont la plupart sont des femmes. Il y a aussi trois hommes sur place. Et sur Tana, on est, pour tout ce qui est opérationnel sur Tana, on est trois. Donc, voilà, en général.
D'accord. Alors, je viens de regarder sur Internet, c'est 1 112 000, mais c'était en 2008, la oui. population de Alloch. Ok, ok, super.
Alloch, c'est très grand. Hein. Il y a, oui. Avant, c'était juste Alloch, mais maintenant, ça devient Alloch Amangour, donc qui englobe quelques districts comme Parafaravoul, Mbatum Razak, Mouramang et Nusbeyanal. Donc, ça fait que c'est devenu un peu plus grand actuellement qu'avant.
D'accord, d'accord, très bien. Et aujourd'hui, le riz que tu cultives par tonne tous les ans, où est-ce que tu le vends?
Donc, généralement, nos riz, donc, sur place, il y a des collecteurs. Il y a des collecteurs donc, qui ramassent, qui collectent les riz de la région. Mais pour nous, actuellement, on stocke, on essaie de stocker ce qu'on ne vend pas. Et on le vend aussi sur Tana, sur quelques clients sur Tana et aussi sur Internet. Nous essayons donc de vendre le riz en ligne aussi parce que nous avons créé récemment un site web pour avoir une visibilité nationale et internationale.
D'accord, d'accord, très bien. Et parce que le riz, en général, c'est un peu la base du repas d'un malgache. Est-ce que toi, déjà, tu consommes du riz matin, midi, soir? Est-ce que tu as l'impression que les malgaches en consomment plus, moins? Quelle est un peu ta vision sur la consommation du riz à Madagascar?
Donc, ma première remarque actuellement, c'est qu'on importe trop le riz à Madagascar. Il y a trop d'importations du riz parce que le riz local peut-être devient un peu plus cher et le riz importé moins cher, mais de très, très, très mauvaise qualité. Moi, personnellement, actuellement, je mange pas du riz matin, midi et soir. Je mange le midi, quelquefois le soir. Mais je mange que le riz de ma région, donc le riz Makalu, Kaou, le riz Tse, Makaou, le Diste. Donc, je mange que ces trois genres de riz-là. Et quelquefois, le riz parfumé, qui est un très, très, très bon riz aussi. En général, le malgache, actuellement, je pense qu'il consomme moins de riz qu'auparavant. Pourquoi? Parce que déjà, il y a le prix qui a augmenté. Et aussi parce que tout devient cher actuellement à Madagascar, Saint-Patrick. Donc, on ne peut plus, le malgache ne peut plus se permettre, si avant il pouvait consommer 1 kg de riz par jour, maintenant il ne consomme plus que 500 grammes de riz par jour. Donc, la consommation de riz a beaucoup, beaucoup diminué actuellement, à ce que je constate.
D'accord. Et quand tu dis que le riz est importé, il vient d'où généralement ?
Généralement, le riz importé vient d'Inde et aussi d'autres pays, je ne sais pas, mais généralement d'Inde.
D'accord, d'accord. Donc, le riz qui est vendu en général, tu veux dire en supermarché ou dans les épiceries, etc., il vient majoritairement de pays extérieurs, mais pas de Madagascar.
Non, dans les riz, dans le supermarché, il y a des pays importés, mais il y a aussi des riz locaux. Il y a beaucoup d'entreprises qui confectionnent de riz et qui vendent dans les grandes surfaces et supermarchés à Madagascar. Mais on trouve beaucoup de variétés de riz aussi locaux dans les supermarchés. Mais il y a aussi de riz importés. Les riz importés, d'habitude, on les trouve dans les épiceries de quartier, dans les marchés de quartier.
D'accord, voilà. D'accord, d'accord, très bien. Et donc, tu parlais tout à l'heure du site web que tu as lancé pour avoir une visibilité nationale et internationale sur le riz. Est-ce que tu penses que le consommateur malgache va utiliser beaucoup ce site web ? Ça, c'est vraiment une question très naïve, hein, vraiment pour comprendre.
Oui.
Est-ce que tu penses vraiment que les gens vont utiliser ce canal d'achat pour acheter leur riz, ou c'est vraiment juste pour toi pour avoir une vitrine un peu virtuelle pour les consommateurs ?
Oui, bon, actuellement, pour être tout à fait franche avec toi, il n'y a pas trop de malgaches qui visitent le site. Le site qui est plus visité, c'est surtout Facebook ou Instagram. Ce sont les sites qui sont les plus visités, donc, concernant Madagascar Rice Company. Mais voilà, tu as raison, c'est pour avoir vraiment une vitrine pour la société aussi, et pour permettre aussi aux potentiels clients internationaux d'échanger avec nous s'ils ont de besoin. D'ailleurs, nous avons déjà eu quelques approches par rapport à ça, et je pense qu'on va quand même dans le bon sens en général.
D'accord. Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est indispensable d'avoir une vitrine sur le web. Après, c'est sûr que c'est peut-être plus pour la notoriété, comme tu dis, ou peut-être pour se faire approcher par d'autres commerces. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Avant de passer à mes trois dernières petites questions, j'avais une question un peu sur tout l'aspect respectueux de l'environnement, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, par exemple, du réchauffement climatique à Madagascar, mais aussi dans le monde. Est-ce que toi, déjà, tu vois un impact direct du changement de climat sur les cultures du riz? Et si oui, quelles sont les actions que vous mettez en place pour contrer, ou au moins pour anticiper les problèmes que vous pourriez avoir dans les années à venir ?
Oui, il y a, par exemple, dans la région, il y a beaucoup moins de pluie. Il y a beaucoup moins de pluie, et parfois, même quand il pleut beaucoup. Et quand il pleut beaucoup, donc il y a une année où il y avait une très, très grande inondation de rizières, et on avait perdu, pas seulement nous, hein, les autres paysans ont perdu vraiment des tonnes de riz, parce qu'il y avait des riz qui étaient stockés dans des hangars, et les hangars étaient inondés de partout. Donc, c'était en 2019, je pense, et c'était vraiment une très, très, très grosse perte, que ce soit pour les paysans, pour les collecteurs, tous ceux qui opèrent donc dans ce secteur-là. Ce que l'on fait donc actuellement, on n'a pas encore entrepris de très grandes choses par rapport à ça, mais par contre on essaye de faire une coopération donc des paysans, une coopération de paysans, et aussi essayer de travailler avec les autorités locaux, d'essayer de discuter avec tous les pas seulement les paysans, mais tous les acteurs économiques, sociaux de la région, de travailler ensemble justement pour contrer cette dégradation de l'environnement. Parce que oui, vraiment, actuellement, c'est vrai que la Loja, c'est vraiment une grande terre de rizières et de lacs, mais c'est aussi une région qui est très, très, très riche en faune et en flore. On a des animaux endémiques, des plantes endémiques là-bas. Il y a aussi il y a un grand... je sais pas si tu en as entendu parler, mais il y a la ruée vers le saphir du côté, c'est dans la région d'Alloch, du côté de Did. Il y a vraiment une très grosse exploitation de saphir, de pierres précieuses qui vraiment dégrade l'environnement de la région. Donc, ce sont des choses comme ça qu'on essaye de mettre en place avec les autorités locales. Mais je sais pas si on va pouvoir trouver des solutions à ça, franchement.
D'accord. Bon, vous continuez à travailler dessus et puis on espère que dans l'avenir, ça pourra se résoudre.
Oui, on espère.
Avant de terminer, je pose toujours trois questions à mes invités pour avoir une vision un peu globale de ton Madagascar. La première, c'est est-ce que tu pourrais me donner une expression que tu entends ou que tu dis toujours à Madagascar et qui, selon toi, reflète le pays?
Une réflexion, une expression, tu dis, qui reflète le pays.
Oui.
Là, vraiment, à l'instant, j'ai pas d'expression ou de réflexion par rapport à ça. Mais par contre, Madagascar, c'est un beau pays. Hein, on peut trouver tellement de choses. Il y a plein d'opportunités entrepreneuriales, sociales. C'est vrai que, comme tu l'as dit au départ, quand on parle de Madagascar, on voit que la pauvreté, la pollution, mais moi, je vois vraiment d'une autre façon, vraiment les opportunités sont nombreuses, la population est chaleureuse, les gens sont gentils, la plupart du temps, oui, les gens qu'on rencontre sont gentils. Et c'est vrai qu'on est un pays pauvre, très pauvre, mais je suis convaincue que si l'on travaille tous, comme toi tu fais avec moi, avec les autres entrepreneurs, si l'on travaille tous ensemble, je pense qu'on pourra y arriver. Et en général, le Malgache est résilient, il trouve toujours une solution à quelque chose, il arrive toujours à se relever d'un impasse, et je suis convaincue que l'on peut un jour, peut-être, que l'on pourra vraiment trouver sortir de cette pauvreté-là. Voilà.
Ton endroit préféré à Madagascar?
Mon endroit préféré. Bon, mon endroit préféré, ça reste ma région. Ça reste un Parafaravoul, ma région où se trouve Madagascar Rice Company. Parce que je pars là-bas souvent. Une fois par mois pour voir comment. Et d'autant plus que mon père aussi y habite, donc je viens le visiter et aussi voir comment la société fonctionne et tout ça. Ça reste mon endroit préféré, c'est très paisible et si on cherche vraiment la sérénité, ce serait là-bas.
D'accord. Et la dernière question, ton plat malgache favori?
Mon plat malgache favori, c'est le Enak Sous Bouri.
Ah, très bien. Avant de terminer, Asne, je voulais que tu partages aux auditeurs, si tu le souhaites, un dernier mot, une phrase, un message à diffuser aux auditeurs de Malabar. Ces discussions, c'est vraiment ton moment.
Oui. Bon, un dernier mot, c'est, je pense qu'il est, en tant qu'entrepreneur, je pense qu'il est essentiel d'aimer ce que l'on fait. C'est pour pouvoir atteindre des objectifs. Il est impératif d'aimer ce que l'on fait, mais aussi d'être soutenu par notre entourage. J'ai eu la chance d'être soutenue par ma famille, par mon entourage, par des amis. Et j'ai vraiment de la gratitude pour ça parce que ça m'a vraiment beaucoup aidée dans ma croissance professionnelle et personnelle, et aussi de grandir aussi en tant que femme, en tant que mère, parce qu'il n'y a pas seulement que le travail, il y a aussi tout ce qui tourne autour, y a ta famille, il y a tes relations et tout ça. Et ça contribue vraiment à ta motivation, à tes projets, à atteindre tes objectifs.
D'accord.
Donc, voilà, je suis toujours aussi, j'essaie toujours d'être joyeuse aussi constamment et d'avoir toujours une attitude de gratitude et positive pour pouvoir être épanouie au quotidien aussi. Je pense que c'est essentiel.
Ah, mais c'est sûr que ça joue. Et je pense que oui. quand mentalement, tu restes positive, optimiste, et comme tu le dis avec le sourire, je suis certaine qu'un jour ou l'autre, ça payera et tu récolteras ce que tu auras semé.
Oui.
Super. Bah, merci beaucoup, Asne. Merci pour ton temps. Et puis, je te souhaite une très bonne réussite avec Madagascar Rice Company. Mais surtout, je te souhaite de continuer à t'épanouir à Alot.
Merci, merci beaucoup Samad, merci de ton invitation.
Ça y est, l'épisode est terminé et merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité de Malabar, n'hésitez pas à vous rendre sur le site malabar.fr ou sur Instagram, je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Malabar est toujours à la recherche d'expériences insolites, alors si vous connaissez quelqu'un ou si vous-même souhaitez partager votre histoire sur Malabar, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn. À bientôt pour un nouvel épisode de Malabar.